Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Appel d'urgence à quelques jours de la conférence mondiale sur le climat, la COP24 en Pologne. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Il faudra faire 3 fois plus d'efforts pour limiter le réchauffement climatique. La planète en danger, c'est ce que nous verrons au cours de nombreux reportages dans les prochaines semaines. À commencer par l'Arménie. Ce sont les élections générales le 9 décembre prochain. Le nouveau gouvernement issu de la révolution d'avril dernier promet beaucoup de changements. Mais sur l'environnement, il faudra batailler dur, notamment sur la question de l'exploitation de la mine d'or d'Al-Musar. Elle menace toute la région. Reportage signé Constance Léon.
À 170 km à l'est de la capitale arménienne, 3 jeunes hommes se réchauffent avec un poêle d'appoint dans une caravane. Cela fait 5 mois qu'ils se relaient avec les habitants des villages environnants de Jermouk pour s'assurer qu'aucun employé de l'entreprise britannique Lydian ne vienne travailler dans la mine. Un calendrier quasi militaire établit les tours de garde entre les volontaires. Aaron Arsenian a 24 ans. Il est aussi un vétéran de la guerre de 4 jours de 2016 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour lui, fermer la mine serait avant tout un acte patriotique. Comme la plupart des volontaires, il a arrêté de travailler pour bloquer la mine.
Nous avons compris que Lydian polluait nos rivières. L'eau de Jermouk est la plus pure d'Arménie. Nous avons coutume de dire que ce qui est le plus précieux pour nous, c'est notre eau, et pas l'or de la montagne. Et puis la ville de Jermouk a été recouverte par l'épaisse poussière toxique des travaux de construction dans la mine.
Alléché par les promesses de Lydian de créer plus de 700 emplois pendant les 10 ans de l'exploitation et les 300 millions d'euros que l'entreprise devait verser à l'État, les habitants ont vite déchanté. Les dégâts à long terme sur la qualité des eaux, la biodiversité et l'activité touristique de la station thermale de Jermouk se sont vite révélés inacceptables. La révolution arménienne d'avril a suscité l'espoir chez les habitants de Jermouk. Ils espéraient que leur opposition à l'exploitation de la mine serait écoutée par les responsables politiques. C'est d'ailleurs au moment de la révolution que les blocages de la mine par les habitants ont commencé. Après la révolution, le premier ministre Nicole Pachignan a promis de résoudre le différend, mais pour l'instant, les choses traînent. Aaron Arsenian veut croire que Nicole Pachignan, candidat à sa succession aux prochaines élections parlementaires, respectera sa promesse.
Nicole Pachignan et son nouveau gouvernement vont résoudre tous les problèmes qui nous concernent, nous, le peuple, pas la compagnie Lydian. Lui respecte nos droits.
Installée sur le lit, Annie Kachatarian est la seule femme activiste venue d'Erevan. À 32 ans, elle est membre du mouvement Le Front Arménien pour l'Environnement.
Avant la révolution, les gouvernements donnaient leur aval à presque tous les projets miniers. C'est ce qui s'est passé à Al-Musar. Maintenant, l'entreprise dit qu'elle a de nouvelles technologies, qu'elle respecte les normes environnementales internationales, blablabla. Mais ils sont tous pareils. Ils viennent, ils prennent l'or ou le cuivre, ça n'a pas d'importance. Ils le prennent, ils polluent la nature sans s'en soucier, puis ils partent, car nous n'avons pas de loi pour agir contre cela.
En juin, Nicole Pachignan a créé une commission d'enquête chargée de fournir une contre-expertise au rapport donné par Lydian lorsque la compagnie a obtenu l'exploitation de la mine. Ses conclusions sont sans appel, la biodiversité est mise en danger par l'activité minière et les analyses de la pollution de l'eau avancées par la société ne sont pas fiables. Arthur Grigorian, à la tête de l'agence chargée de la protection de l'environnement, est convaincu que le projet Al-Musar est un contresens écologique et économique.
C'est un lieu unique, très vulnérable. Est-ce vraiment raisonnable d'ouvrir une mine en plein air à quelques kilomètres d'une station thermale ?
Al-Musar est devenu aujourd'hui le symbole d'une ancienne classe politique sourde aux enjeux environnementaux.
News on the march!
Et sur les questions d'environnement, comme sur les grands dossiers politiques ou les thématiques migratoires, mieux vaut avoir des infos précises, vérifiées, étayées. Bref, dans la guerre aux fake news et aux campagnes de désinformation, on va parler de journalisme avec vous, Eve Minot. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
La presse papier n'a peut-être pas encore dit son dernier mot en Europe. Vous nous parlez aujourd'hui d'une étude du Pew Research Center qui analyse le rapport que les Européens entretiennent avec les sources d'information. Et le moins que l'on puisse dire, Eve, c'est que les résultats battent en brèche certaines idées reçues.
Oui, le premier enseignement, c'est que les jeunes Européens entre 18 et 29 ans sont loin de se détourner de l'actualité. L'étude menée à l'automne dernier, en 2017, par le Pew Research Center, un centre de recherche américain non partisan, dans 8 pays de l'Union Européenne, dont l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, montre qu'en pleine ère des fake news, ils sont quand même 89% parmi les jeunes donc à estimer que les médias sont un rouage nécessaire au fonctionnement de la société, soit 15% de plus que leurs concitoyens âgés de 50 ans et plus.
Un rouage nécessaire donc, mais pas toujours au niveau.
Oui, c'est là tout le paradoxe. Ils considèrent les médias comme étant indispensables, mais sont plus sévères que leurs aînés quand il s'agit de critiquer leur travail. Sur les 5 critères évoqués par l'étude, comme être neutre politiquement, retransmettre les faits importants, être indépendant vis-à-vis du gouvernement et du monde des entreprises, les moins de 30 ans sont systématiquement plus critiques que toutes les autres classes d'âge. C'est particulièrement vrai pour les jeunes interrogés en Espagne, au Royaume-Uni, au Danemark et en Suède, notamment sur la manière dont sont traités des sujets bien précis comme l'immigration, par exemple.
Et même si les jeunes consomment moins de presse écrite que leurs aînés, ils continuent à lui faire confiance.
Oui, là encore, cela peut sembler paradoxal. Et pourtant, au niveau européen, les publications papier, comme les quotidiens et les magazines, continuent de recueillir la confiance des plus jeunes, même s'ils sont moins nombreux à les acheter. Ainsi, en France, par exemple, Le Monde, Libération ou Le Figaro inspirent davantage confiance aux moins de 30 ans qu'aux plus de 50. Et ce qui est vrai pour ces publications françaises se vérifie, là encore, dans tous les pays concernés par l'étude, avec la Süddeutsche Zeitung en Allemagne, ou encore la Corriere della Sera en Italie et le Guardian au Royaume-Uni.
Autre constante dans les 8 pays étudiés, la nature des médias consultés en fonction de l'âge.
Oui, on imagine les jeunes derrière leur smartphone, les plus âgés devant leur journal imprimé. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Sans surprise, les jeunes adultes plébiscitent le web, bien sûr, pour s'informer devant la télévision, devant la radio et le papier, tandis que les aînés continuent de considérer la télévision comme leur source principale d'information. Ils ne sont par exemple que 40% chez les 18-29 ans à suivre l'actualité à la télévision. Moins de la moitié donc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jeune sur cinq en France cite Le Monde comme principale source d'information. Le quotidien a donc réussi à convaincre la jeunesse en passant de la version papier au web. Les deux autres sources citées ensuite par les moins de 30 ans sont en France Facebook, 11%, et BFM, 10%. À noter en Espagne et en Italie la prévalence de Google dans les sources d'information notées par les jeunes.
Et chez les plus de 30 ans ?
Alors chez les 30-49, la principale source d'information citée est la télévision, et chez les plus de 50, c'est pareil. En France, Le Monde n'arrive qu'en 4e position pour cette tranche d'âge. À noter tout de même, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les 3 classes d'âge interrogées par l'étude citent toute la première chaîne de télévision publique nationale, la ARD, la NPO ou la BBC, comme première source d'information.
Et de la même manière, Eve, les jeunes sont plus susceptibles de prendre connaissance de l'actualité à travers les réseaux sociaux.
Oui, c'est le cas de la majorité d'entre eux et dans tous les pays étudiés d'ailleurs. Sans surprise, les plus de 50 ans tournent le dos à cette source d'information, et c'est particulièrement vrai pour la France où l'écart entre les générations sur ce sujet est le plus creusé des 8 pays étudiés.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ce fut le plus jeune roi européen et son règne fut également le plus court.
La justice bulgare a tranché l'ancien roi qui a ensuite été Premier ministre, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, ne pourra pas récupérer ses palais. La cour estime qu'il s'agit de biens publics et non de biens particuliers. Ultime épisode emblématique du grand débat sur la restitution des biens après la chute du communisme à Sofia, Damien Vodenicharov.
C'est une saga qui dure près de 20 ans. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, alias Siméon II, roi exilé à l'âge de 10 ans après le coup d'État communiste de 1944, a dû dire au revoir non seulement à la couronne, mais aussi au palais et résidences royales qui vont avec. De retour en Bulgarie en tant que Premier ministre en 2001, l'ancien monarque s'est restitué 5 palais et résidences secondaires et une parcelle boisée de plus de 1600 hectares, et ce grâce à l'aide de préfets qu'il avait lui-même nommés. Mais la réappropriation de ces terres a coûté cher à ce Saxe-Cobourg-Gotha. Le prix à payer était sa carrière politique, et cette saga royale ne se termine pas là. Quelques années plus tard, c'est l'ancien garde du corps de l'ex-premier ministre, Boyko Borisov, qui est devenu à son tour chef du gouvernement. Et c'est alors que commencent les ennuis judiciaires pour Siméon. En 2009, le Parlement va jusqu'à lui interdire d'y résider. Pour le gouvernement, ses palais et résidences secondaires ont toujours appartenu à l'État et non à la famille royale. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être restitués en tant que propriété privée confisquée par le régime communiste. Les documents confirment que la construction de ces résidences et leur entretien ont été financés par le budget national. Le palais Vrana, en périphérie de Sofia, est la résidence la plus chère et la plus vaste de ces résidences royales. Le palais lui-même a été construit entre 1904 et 1914 et fait 3200 mètres carrés. La propriété comprend un parc, des étables, un jardin botanique et plusieurs lacs qui s'étendent sur plus de 250 hectares. C'est aussi la dernière à être déclarée propriété publique, ce qui a poussé l'ancien roi et ancien premier ministre à déclarer qu'il était victime d'un second exil dans son propre pays. Mais Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha n'a pas encore complètement abandonné la partie, puisqu'il a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
On va vous donner envie d'opéra, de danse, de Londres. Le Royal Opera House de Covent Garden a fait peau neuve, assisté à des répétitions sublimes entre midi et deux, prendre des cours de chant avec des ténors maison ou tout simplement prendre un café dans un hall ouvert sur l'extérieur et l'intérieur. Tout est possible grâce au projet Open Up. Reportage signé Marie Billon.
Un petit concerto entre midi et deux, c'est ce que propose le Royal Opera House tous les vendredis. Les live at lunch, comprenez les performances pendant la pause déjeuner, peuvent être des petits concerts ou des ballets. Souvent, ce sont aussi des répétitions en public. Aujourd'hui, de jeunes danseurs étoiles sont à la barre. Nous sommes en fait au premier sous-sol dans le foyer Linbury, mais il n'y a pas de plafond, l'endroit est grand ouvert. Il suffit donc de se pencher depuis le vaste hall d'entrée au rez-de-chaussée pour tout voir et tout entendre. Entre deux exercices, le professeur présente les artistes au public, leur demande de parler un peu de leur parcours. Le pianiste aussi est invité à expliquer son travail de musicien pour ballet.
Dans le cadre de répétitions comme celle-ci, il faut savoir improviser. Il faut aussi avoir une bonne technique, parce que les ballets sont écrits par Tchaïkovski, Prokofiev, Stravinsky. Et on ne sait jamais ce que le professeur va nous demander de jouer.
Un petit coup d'œil dans les coulisses de la préparation d'un ballet, donc pour les spectateurs, tous très détendus. C'est bien un verre qui dévale les escaliers et qui se brise au pied des danseurs. Et dans le fond, on entendra bientôt un bébé qui pleure. Cette joyeuse pagaille n'est peut-être pas voulue par la maison, mais elle est certainement bienvenue. Le Royal Opera House a changé de peau, a changé d'éthique, comme le dit son PDG, Alex Beard.
La nouvelle façade vitrée du bâtiment, ces nouveaux espaces créés à l'intérieur, ils changent la manière dont le monde nous regarde, car ils changent la manière dont nous envisageons le monde. Le projet Open Up est une philosophie qui nous permet de partager les mondes fantastiques que sont le ballet et l'opéra.
Le bâtiment a été construit en 1858, mais cette année, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. L'architecture baroque est désormais mariée à un design très moderne, du bois de châtaignier et d'acajou surtout, à un plafond haut avec des carrés de pyramides inversées, ce qui plaît beaucoup aux visiteurs.
Je suis venue ici en août dernier, ça n'était pas comme ça. Tout est plus ouvert, plus relax. J'aime beaucoup cette idée d'ouvrir la maison et de proposer des événements gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un billet de concert.
Roof est venu assister au live at lunch, mais aussi participer au cours de chant de l'après-midi. Une heure après le live at lunch, il y a au même endroit un cours de chant. Une trentaine de personnes vient recevoir les lumières de Mark Biggins, chef d'orchestre. Nihat, par exemple, en redemande.
C'est la quatrième fois que je viens. Mon enthousiasme grandit, mais je ne sais pas si mon chant s'améliore. Mais je m'amuse beaucoup. C'est super de pouvoir chanter en plusieurs langues, en français, en italien, en allemand, et d'apprendre à fredonner un extrait de Madame Butterfly. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une communauté d'amateurs d'opéra. On n'a jamais l'occasion de se retrouver et de faire quelque chose ensemble, si ce n'est s'asseoir et assister silencieusement à un spectacle. Là, on peut sociabiliser, venir boire un café.
Here will our friendship guide you. Barbara, be your companion.
La plupart de ces cours sont remplis à 100%. Linda s'essaie au chant pour la toute première fois.
Après ça, quand j'irai voir un opéra, la performance aura plus de sens pour moi. Et pour une fois, je participe au lieu de simplement regarder.
Le risque est de créer un nouvel espace pour l'entre-soi. C'est pour ça que le Royal Opera House organise aussi des activités pour les plus jeunes. Des cours de danse pour les petits ou bien des ateliers création pour apprendre comment fabriquer les accessoires qui seront utilisés sur scène. Julianne Barker est en charge de ces programmes.
Je crois passionnément que l'art est pour tout le monde, que l'opéra et le ballet peuvent parler à tous les âges, à toutes les classes sociales. Ils parlent de la condition humaine.
Et pour que ces expériences soient accessibles à tous, certains événements sont gratuits. Les ateliers, eux, sont à des prix raisonnables. Pour les enfants, à partir de 12 mois, les prix vont de 5 à 17 euros. Et pour les adultes, c'est 11 euros pour un cours de danse ou de chant. Et si les élèves sont enthousiastes, quelques dizaines de passants se pressent contre la toute nouvelle baie vitrée, intrigués par la musique qu'on entend jusque dans la rue. Certains entrent même, puisque les portes sont ouvertes, mais la plupart n'ont pas encore le réflexe. Roden Petit est le directeur associé de la firme d'architectes Staunton Williams en charge de ce renouvellement.
Nous voulons que les gens qui passent devant l'opéra voient de l'activité à l'intérieur du hall. Pour ça, on a ouvert un café. Avant, il n'y avait de l'activité qu'avant les concerts. Les gens n'étaient dans cet espace que pour déposer leur manteau à la consigne, récupérer leur ticket et disparaître dans les salles. Et puis voilà, le hall était vide. Maintenant, on veut qu'il y ait de l'activité tout au long de la journée.
Certains dénoncent la commercialisation de l'opéra avec son nouveau magasin de souvenirs en particulier. Mais côté programmation, la maison aussi a fait peau neuve. Moins portée sur les œuvres contemporaines, plus éclectique et aussi quelques opéras et ballets pour les jeunes, notamment Monstrous Child, un mythe nordique mis en musique.
Des passionnés encore d'architecture, cette fois à Ekaterinbourg, quatrième ville de Russie dans l'Oural. Ils ont voulu sauver l'héritage de la période constructiviste, un style épuré, issu de la révolution bolchévique. Visite signée Étienne Bouche.
Jusqu'à la révolution de 1917, la Russie est un pays très largement rural. Ekaterinbourg n'est alors qu'une petite ville de province que les bolcheviques vont transformer. Élevée au rang de capitale régionale, Ekaterinbourg est mise au service de l'idéal soviétique. La ville est rebaptisée Sverdlovsk et doit devenir un grand pôle industriel. Ses habitants sont sommés d'abandonner leur mode de vie et devenir citadins. Cette nouvelle classe ouvrière doit travailler et être logée. Les architectes de l'époque doivent relever un défi. Construire beaucoup, vite, avec peu de moyens, mais avec style. Leur mission consiste à rompre avec le passé et inventer des standards de vie conformes à l'idéal communiste. Car la révolution n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle. Le courant de l'avant-garde imprègne tous les genres artistiques. En architecture, les constructions aux lignes épurées remplacent les maisons de bois traditionnelles. Et c'est à Ekaterinbourg que cet héritage constructiviste est le plus visible. Au nord de la ville, le quartier ouvrier d'Ouralmash raconte l'histoire de cette urbanisation frénétique. Mais au milieu des années 30, le constructivisme est abandonné par Staline qui le juge trop minimaliste et lui préfère un style empire. À la disparition de l'URSS, les Russes se désintéressent de ces réalisations de l'avant-garde. À travers le pays, la spéculation immobilière emporte de nombreuses constructions de cette époque. Mais depuis quelques années, grâce à la mobilisation de passionnés, le regard sur ce patrimoine évolue. À Ekaterinbourg, on entend désormais valoriser cet héritage.
À noter qu'Ekaterinbourg avait candidaté pour l'exposition universelle de 2025, mais elle n'a pas été choisie au profit d'Osaka au Japon. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. On se dit à demain.